Allons continuer cette lecture. Aristote sur le point de vue de la finalité. Donc, je continue page 107 de la traduction nouvelle. De manière générale, d'ailleurs, l'art, d'une part, accomplit les réalisations que la nature est dans l'impossibilité d'achever. Donc, c'est toujours ce point de vue de l'art et de la nature qui permet à Aristote de mieux préciser la finalité de la nature. C'est très intéressant au point de vue méthode de comprendre que la notion d'art, ce qu'est l'art, est pour nous plus connaissable que la nature. Et donc, c'est bien à partir de la connaissance de la philosophie humaine qu'Aristote aborde le problème de la philosophie spéculative. Ce que la scolastique n'avait absolument pas vu, puisque c'était à partir de la connaissance spéculative qu'on connaissait la connaissance pratique. Je crois que c'est très important pour nous, parce que c'est une question d'ordre, de connaissance. Et si nous reprenons un jour ce que je souhaite, les degrés du savoir, il faudrait insister énormément là-dessus. Et c'est capital pour nous aujourd'hui, si on veut comprendre ce que c'est que la philosophie de la matière, c'est-à-dire la philosophie de la nature, qu'on devrait peut-être appeler philosophie de la matière. Il faut comprendre que c'est à partir de la connaissance de l'art, de la philosophie de l'art, qu'on aborde le problème de la philosophie de la nature. Cela ne veut pas dire que la philosophie de la nature est subordonnée à la philosophie de l'art. C'est pas ça du tout. Mais c'est un ordre génétique pour nous. Qu'est-ce qui est le plus connu pour nous? Est-ce l'art ou est-ce la nature? Est-ce que c'est par la nature que nous connaissons l'art, ou est-ce que c'est par l'art que nous connaissons la nature? Si nous sommes dans une perspective réaliste, c'est toujours par l'art que nous connaissons la nature. C'est très important. Oui, alors ici, c'est bien cela qu'Aristote nous montre. La finalité de la nature est très difficile à saisir. C'est très difficile parce que c'est une finalité immanente. Or, une finalité immanente, c'est presque avouer qu'il n'y a pas de finalité. Et pourtant, il y a une finalité. Si on comprend la finalité d'une façon analogique et non pas d'une façon univoque, on comprend que pour nous, la première manière de saisir la finalité, c'est toujours par le point de vue de la philosophie de l'art. Puisque par la philosophie de l'art, on est devant l'œuvre. L'œuvre finis effectus, comme dit les scolastiques. Là, ils ont bien saisi. C'est une fin, mais un effet. Qui dit fin et qui dit effet est quasi contradictoire. Mais c'est intéressant, vous voyez. Ce serait pour nous, hein, comprenez bien, pour nous, le premier moment dialectique. Deux moments qui s'opposent, effet et fin, c'est d'une certaine manière opposé. L'effet, c'est ce qui est relatif à la cause efficiente. La fin, c'est ce qui transcende la cause efficiente. Et l'œuvre et la synthèse, effet et fin. Vous voyez bien ce tout qui est l'œuvre. Implique effet, implique fin. Ça, c'est très important de comprendre pour nous, de comprendre que la première manière de saisir ce qu'est la finalité, c'est par l'œuvre. La première manière, quoi nos, pour nous et qu'on a beaucoup de peine à le dépasser. On reste dans ce conditionnement de l'œuvre qui est un tout, qui est effet et fin. Et la cause efficiente est finalisée par la fin qui transcende toujours la cause efficiente et qui pourtant dans les faits est dépendant de la cause efficiente. Et alors on voit très bien comment l'œuvre qui est ce tout va impliquer les deux. Vous voyez que c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit de la nature qui est saisie d'abord comme une cause efficiente, la nature a une fin. Quelle est la fin exacte de la nature, de l'opération, du mouvement naturel? Parce que la nature implique une certaine immanence. Cette immanence de la fin. Alors, d'une manière générale d'ailleurs, l'art, d'une part, accomplit les réalisations que la nature est dans l'impossibilité d'achever. Ça, c'est facile. Tout ce que la nature ne peut pas faire, on demande à l'art de le faire. Hein? On demande à un médecin de donner la santé que la nature est incapable de donner. Et si le médecin ne la donne pas, on lui dit vraiment qu'il a manqué à son métier. Il doit donner la santé, c'est bien évident. Alors ça, c'est très important de reconnaître que l'art doit pouvoir faire quelque chose que la nature ne fait pas. D'autre part, imite les réalisations de la nature. Donc vous avez allos et techné, ta me epitelei, a et phosis, adunatei, aperinga sastai, et dade mimetai. Vous voyez, les deux, l'art imite la nature et l'art dépasse. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'Aristote donne l'ordre inverse. D'habitude, Aristote dit toujours, l'art imite la nature. Et c'est ce que la tradition a gardé. Parce que la tradition, quand elle n'est pas renouvelée par l'intelligence, elle prend toujours ce qui est le plus facile. C'est ça qu'on appelle les traditionnalistes. N'est-ce pas ? Les traditionnalistes reçoivent toujours ce qui est le plus facile à retenir, sans effort. C'est les ornières, si vous voulez. Les traditionnels, c'est les ornières, dans le langage habituel. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes incapable d'inventer. Vous êtes un traditionnaliste. Et aujourd'hui, c'est la pire des injures. C'est vrai, il faut comprendre les choses comme elles sont, dans un certain contexte. Dire traditionnaliste, c'est la pire des injures. Vous êtes incapable d'inventer. Vous êtes dans des ornières. Je crois qu'il faut savoir relever le gant et dire ça. L'art imite la nature, ça veut dire que l'art n'invente rien. Alors ici, Aristote dit, mais juste l'inverse. L'art produit les choses que la nature ne peut pas produire. Donc c'est reconnaître l'invention de l'art. Alors, quand on dit qu'Aristote ne regarde que l'art qui imite la nature, vous voyez bien que ce passage est très important. La nature fait les choses, je veux dire, l'art fait les choses, et dit d'une manière générale, holos. Holos, c'est presque du plus que d'une manière générale, c'est universellement. D'une manière générale, c'est un petit peu trop vague. C'est presque générique, d'une façon générique. Donc l'aspect fondamental de l'art, l'aspect premier de l'art, c'est de faire les choses que la nature est incapable de faire. Les adunatei. Vous voyez, c'est les choses que la nature ne peut pas faire, par l'impossibilité d'achever, de réaliser. C'est très beau que c'est mis les adunatei, apergasastai, donc qu'elle ne peut pas achever, qu'elle ne peut pas œuvrer, qu'elle ne peut pas aboutir dans l'ordre de l'efficacité. L'efficacité de l'art dépasse l'efficacité de la nature. C'est ça que ça veut dire. L'efficacité de l'art dépasse l'efficacité de la nature. Et cependant, cette efficacité de l'art se fait dans l'imitation de la nature. Je crois que c'est important, parce que ça montre l'œuvre d'art au-delà de l'œuvre de la nature, et la manière dont l'art le fait, c'est en imitant la nature. Donc, non pas en violant la nature, mais en imitant la nature. La mimesis de l'art par rapport à la nature regarde beaucoup plus la manière dont l'art opère. Et les adunatei montrent le dépassement. Si donc les réalisations accomplies par l'art le sont en vue de quelque fin, ça c'est manifeste. L'art fait une œuvre. Si l'art fait une œuvre, l'art a une finalité. Si donc les ta kata ten teknen et des katu sont en vue de quelque chose, il est manifeste que le sont aussi les réalisations accomplies par la nature. Vous voyez bien qu'il s'agit de la manière d'agir. Les œuvres d'art sont finalisées. Donc, les œuvres de la nature sont finalisées. Or, le point de vue de la finalité, ce n'est pas l'œuvre. La finalité, c'est une manière d'agir. Il est manifeste que le sont aussi les réalisations accomplies par la nature. Vous voyez le raisonnement analogique. Et c'est bien l'art qui nous manifeste ce qu'est la nature. Et l'art qui imite la nature. Oui.
Ça repose sur une analogie propre ou métaphorique, c'est mimésis.
C'est une analogie propre. C'est la manière d'agir. Et c'est par là qu'on atteint le point de vue de la finalité de la nature. Vous voyez, je dirais, l'art claironne la nature. Elle crie, elle manifeste ce que la nature fait d'une façon silencieuse. Ce qui est vrai, du reste. L'artiste aime de dire et de manifester, c'est le propre de l'art. Un artiste qui ne dit pas et qui ne manifeste pas n'est pas un artiste. Tandis que la nature est silencieuse. Toujours. Et la finalité de la nature est silencieuse. Tandis que l'art dit. C'est pas étonnant, il y a le logos dans l'art. Le logos est beaucoup plus manifeste dans l'art que dans la nature. Dans la nature, la causalité matérielle est toujours première. C'est ce qu'on oublie trop. C'est pour ça que je viens de te dire philosophie de la matière. La causalité matérielle, qui est de l'ordre de la disposition, est beaucoup plus forte dans la nature que dans l'art. Dans l'art, qu'est-ce qui commande tout ? C'est l'aïdos. Donc c'est le logos. C'est la cause formelle. Je crois que c'est tout ça qui est impliqué dedans. Vous voyez, quand il met le parallélisme, du moins l'analogie, entre les causalités artistique et les causalités physiques. C'est la relation entre la matière et l'art, et la fin, je veux dire. Je mettrai comme ça, vous voyez. La relation entre les deux, au niveau phusis. Et à niveau art, techné. Il est évident que l'art commence par la cause eidétique, l'eidos, donc l'idée. causalité formelle, exemplaire. Donc une causalité formelle, puisqu'elle, parce qu'elle est exemplaire, elle est au-delà de la causalité matérielle. Quelque chose de séparé. Alors, elle est liée directement à la fin. C'est l'œuvre. Œuvre et fin. Et donc, le lien, l'ordre, entre la causalité eidétique et la fin est beaucoup plus manifeste qu'entre la matière et la fin. Et c'est cet ordre de la causalité eidétique et la fin que l'art manifeste. Or, on a dit, l'art imite la nature. Quand on dit que l'art imite la nature, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit qu'il y a un ordre dans les opérations artistiques qui imite celle de la nature. Et donc, si dans l'art je vois cette relation entre la cause exemplaire et la fin beaucoup plus manifeste, ça nous rend évident la relation matière-fin. Oui, la matière a ceci de très particulier. La matière dispose. Or, la disposition, toujours ce que dit saint Thomas, la disposition ex parte materiae, la disposition se prend du côté de la matière. Or, la disposition comme telle, puisque l'art dispose, la cause matérielle dispose, la causalité finale, la causalité matérielle, parce qu'elle dispose, risque toujours d'engloutir la fin. Ça, c'est très vrai. Toutes les monstruosités viennent de la matière. Et les monstruosités, c'est quoi? C'est quand, de fait, la matière est trop puissante et qu'elle étouffe la fin. Pensez à Hésiode, qui dit ça admirablement dans la Théogonie. C'est la première lutte qui existe dans le ciel. Et la première lutte qui existe dans le ciel, hein, c'est entre la cause matérielle et la finalité. Et la cause matérielle engloutit les enfants et les empêche de naître. C'est quand la maternité est trop forte, cause matérielle, et empêche les enfants d'apparaître, de quitter le sein maternel. C'est quand même la finalité de quitter le sein maternel. Et quand c'est trop fort, bien ça reste dans la cause matérielle, qui est immanente. L'immanence de la cause matérielle est extrêmement puissante. Et empêche d'apparaître.
Est-ce qu'on peut dire que dans l'art, à l'inverse, la cause formelle, si elle manifeste plus l'ordre, est beaucoup plus séparée de la fin de l'œuvre?
Ah, non, je dirais séparée de la matière, pas de l'œuvre.
Oui,
de la matière, pas de l'œuvre, puisqu'elle est tout ordonnée à l'œuvre.
Oui, mais il y a quand même...
Ah, elle est tout ordonnée à l'œuvre.
Oui, mais elle se justifie en dehors de l'œuvre aussi.
Non. Elle se justifie dans l'œuvre. Un artiste qui ne réalise pas son idéa n'est pas un artiste. Mais l'idéa est lié par rapport à la matière. Ça, oui. Ça, alors, je suis d'accord. Et au fond, quand il n'arrive pas à réaliser, c'est parce que l'idéa n'a pas su épouser la matière. Épouser dans le sens de l'assumer. Mais l'idéa est totalement ordonnée à la fin, à l'œuvre. L'idéa n'a pas de sens sans l'œuvre. Je crois que ça, il faut le maintenir à tout prix. Et autrement, vous iriez trop vers Maritain. Notre cher Jacques. Jacques, il conçoit que l'idéa est finalisée pour elle-même. Alors c'est ce point-là auquel je dis ça, c'est l'idéalisme. L'eidos est ordonné à l'œuvre. Un artiste qui ne réalise pas quelque chose, il est malheureux. Ah, j'avais conçu quelque chose de si beau. On n'a qu'à demander à un violoniste. S'il n'arrive pas à réaliser son Eidos, eh bien, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est malheureux. Parce qu'il avait pensé, il avait porté ça en lui. Ça doit se réaliser dans l'œuvre. Et ça ne se réalise pas à cause, quelquefois, de l'instrument. Qu'est-ce qu'il a ? Son violon ne marche pas aujourd'hui. L'humidité, il y a quelque chose, il ne marche pas. Il y a quelque chose, et puis il ne domine pas assez. Alors la matière, à ce moment-là, est réfractaire, elle résiste. Et c'est la matière qui peut être monstrueuse. Vous voyez, c'est très très curieux. Il faut relire toujours ce passage d'Hésiode. Pour moi, c'est un passage extraordinaire qui commande toute la philosophie grecque. Et l'opposé avec Freud. C'est là l'aspect monstrueux de la matière. La matière peut être monstrueuse. La matière peut être monstrueuse et la matière, quand elle est monstrueuse, elle empêche la finalité. Elle arrête. Vous voyez, c'est ce qu'on dit du rat, d'une façon, quand on dit rat. Quand une mère est captative, d'où ça vient, une mère captative ? C'est une mère qui ne veut pas lâcher son fruit, et donc demeurer dans la disposition. Et qui ne va pas vers la finalité. C'est ça, être captatif. Tandis que l'Eidos veut l'œuvre, mais alors l'Eidos peut être tyrannique. Vous voyez ? Et imposer trop à la matière, dompter davantage la matière. Et quand elle dompte trop la matière et qu'elle ne la caresse pas assez, alors à ce moment-là, l'œuvre rate. C'est très curieux, parce que c'est toujours les choses monstrueuses qui nous font comprendre, ordinairement. Prenez, c'est l'œil unique du cyclope qui nous fait comprendre pourquoi nous avons deux yeux. Toujours les choses monstrueuses. La monstruosité de la cause matérielle nous fait comprendre ce qu'est c'est que la disposition en vue de la fin. Mais l'art manifeste. Et ça, moi, je crois que c'est très important. Au plan philosophique, vous voyez comment l'art devrait nous aider aujourd'hui. Ce n'est pas la science qui nous aide à comprendre la philosophie de la nature. C'est l'art. Et on a oublié complètement scolastique l'art. Complètement. On a cru que la philosophie de la nature était première pour nous. Parce qu'Aristote dit tout simplement, au début de la physique, que la nature, les réalités physiques sont plus proches de nous. Et plus proches de nous. Spéculativement, c'est les premières. Mais pas naturellement. L'art est premier. Et c'est toujours la philosophie de l'art qui nous aide à comprendre la philosophie de la matière. Ce qu'on a complètement oublié en scolastique. Parce qu'on a dit l'inverse. C'est que tout simplement, il fallait connaître la philosophie spéculative et l'appliquer aux réalités. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, comme disait le père de Haut, c'est la propos de ex-intentionné et non pas à la place de extensionner. La scolastique disait extensionner. Et alors la veuve, la larme de la veuve, comme disait le père de Haut, c'est en vivesse, où il y a juste une faute à ce moment-là, extensionner, en s'éteignant. Et déjà, c'est faux de dire qu'on applique les principes à la matière. Vous voyez, c'est toute l'erreur de la scolastique, ça. De la scolastique décadente de Suarez. On n'applique pas. Parce que la philosophie pratique a ses principes propres et ses inductions propres. Et donc il y a des principes propres de la philosophie de l'art, il y a des principes propres de l'éthique, il y a des principes propres de la politique, dans la mesure où la politique a des principes. Et non pas du tout et c'est de la philosophie pratique qu'on s'élève à la philosophie spéculative. Et on met du temps. S'élever de l'art à la philosophie de la matière, à la philosophie de la nature, c'est pas si commode. Parce que la philosophie de la nature est spéculative. Donc je respecte pleinement ce qu'est la matière, ce qu'est la nature, pour découvrir la nature principe. Et je découvre la nature principe immanent, et dans ce principe immanent, je vois la dualité matière et forme. Il faut tout le temps venir à ça. Et vous voyez que pour la finalité, ce qui est très très beau, pour la finalité, dire que la nature est finalisée, je suis obligé tout le temps de revenir à l'analogie de l'art. Parce que la finalité dans la nature est tellement enfouie. C'est vrai, c'est très enfoui, la finalité dans la nature, la finalité de l'eau. Ne dites pas que la finalité de l'eau, c'est pour qu'elle soit bue.
Elle est une analogie propre par rapport à celle de la nature, mais métaphorique par rapport à celle de l'éthique. Oui, parce que...
Par rapport à l'éthique, il n'y a pas, de connexion, vous voyez. Tandis que pour la nature, oui, à cause de la matière.
Est-ce qu'il n'y a pas une connexion par la métaphore ?
Il faudrait voir. Oui, peut-être par la métaphore. Venez.
Symbole pour dire...
Parce que quand il s'agit de la morale, on a les faits les plus premiers, puisqu'on a l'intention morale qui unit directement l'homme volontaire à sa fin. Et les faits n'est pas regardé du tout. Tandis que là, c'est par les faits que j'atteins la fin. L'ordre est tout à fait différent. Je ne sais même pas s'il y a une analogie. Il y a une analogie en sens que c'est la finalité, mais c'est la diversité en premier lieu. Et au fond, l'art, très souvent, est un obstacle pour la morale et n'aide pas la morale. Tandis que l'art aide la connaissance spéculative. Vous voyez ? Je ne me servirai pas tellement... Au fond, je découvre l'intention, c'est-à-dire l'amour. Et je ne fais pas appel du tout à l'art pour découvrir ce que c'est que l'amour. J'opposerai au contraire. Je montrerai que la morale a en elle-même sa propre justification et que ce n'est pas le résultat qui justifie l'intention. Et toujours, toujours, quand on fait des critiques, on regarde les résultats et on se sert des résultats pour critiquer. On ne voit pas qu'en faisant ça, on est artiste et on a complètement oublié, télescopé ce qui commande tout, l'intention. C'est comme ça qu'on doit semer les critiques. En disant, vous n'avez rien compris. Vous êtes un artiste et vous regardez les choses en artiste, donc de l'extérieur. Vous ne comprenez pas l'intention. L'intention qui finalise, qui regarde le bien. La connaissance artistique ne regarde pas, l'activité artistique ne regarde pas en premier le bien, mais l'effet, l'œuvre, le résultat. Un artiste, il regarde le résultat. Vous voyez ? Et si on regardait l'eidos, on va l'envoyer, si on regardait l'eidos sans l'œuvre, on moraliserait l'art. Ce qui est la pire des injures que je vous fais. Vous voyez, on regarderait l'eidos pour elle-même. Alors, ce serait moralisé, ça. Comme je regarde l'intention. L'intention peut être pure. L'eidos n'est pas pure par elle-même. Elle est pure dans la réalisation.
Est-ce qu'on pourrait préciser quand est-ce que l'eidos, la cause formelle, tyrannise la matière dans la... On comprend pour le vivre.
On le regarde par rapport à l'œuvre. Et vous verrez ça dans l'œuvre. Vous verrez dans l'œuvre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assumé. Parce que quand on tyrannise, on n'assume plus. Alors vous verriez une matière inorganique dans l'œuvre. Dans l'éducation, ça se voit tout de suite. Dans l'éducation, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, toutes les complexes. Quand un éducateur est tyrannique, il complexe l'enfant. Et l'enfant ruera, va se mettre à ruer. Et bon, ce sera la réponse. L'éducateur qui est tyrannique reçoit la ruade de l'âne. Et c'est bien fait.
Dans le vivant, je vois mieux, mais dans la matière, en tant que telle, par exemple, dans les expériences atomiques, dans les...
Mais oui, je vois très bien ce que vous voulez, c'est toujours très très difficile de voir le moment, c'est ce que je disais, la différence entre l'exploitation et la coopération. Oui. Est-ce que c'est une exploitation? On le voit dans les résultats. Je ne peux pas le voir avant. Je ne crois pas. Oui, alors c'est ça qui est très complexe dans toutes ces choses-là, parce qu'il y a à la fois... une œuvre d'art où on exploite la nature. Alors, à quel moment on exploite la nature? Et à quel moment, de fait, on ne coopère plus avec elle? C'est très, très difficile. Bon, c'est très vrai, ce que vous dites, chez le vivant, on le voit mieux. Le médecin, par rapport à tel remède, il verra que ce remède, à la place de coopérer, fait la révolution. C'est la ruade. L'organisme rue de temps en temps, en face de tel ou tel médicament, parce qu'on l'a violenté. Avec les meilleures intentions du médecin. Mais on l'a violenté. Il dira, c'est vrai, au fond, le malade ne pouvait pas accepter ça. Il était dans un état de faiblesse qu'il ne pouvait pas. Et moi, j'ai cru qu'il pouvait réaliser. Ça arrive constamment, vous voyez, quand on passe de l'animal à l'homme, par exemple, dans les expérimentations. Vous expérimentez un produit pharmaceutique sur l'animal et puis vous l'appliquez après. Et vous voyez des ruades de l'âne. Et vous n'acceptez pas de reconnaître que c'est des ruades de l'âne. Parce que vous n'aviez cru que lui réagirait comme le corps de l'homme est analogiquement totalement différent du corps de l'animal. Puisqu'il est spirituel. Et que le corps de l'âne ne l'est pas. Et le corps du rat ne l'est pas. Et le corps ne l'est pas. Il y a dans le corps de l'homme quelque chose d'unique. Parce qu'il y a l'âme spirituelle présente. Et c'est ça qu'on ne peut pas saisir biologiquement. Il y a quelque chose qui échappe à la biologie et dont on voit les réactions, les ruades. C'est un peu trop tard. On aurait dû être plus prudent. Parce qu'on n'a pas le droit de se servir du corps de l'homme, puisque c'est un corps de l'homme et spirituel, on n'a pas le droit de s'en servir comme un terrain d'expérimentation. C'est le respect qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et au fond, c'est toute la question de l'information de l'âme par rapport au corps. Vous voyez, je ne peux pas dire absolument que le corps de l'homme est spirituel. Parce qu'il faudrait dire à ce moment-là que l'âme spirituelle informe le corps. Or, ce n'est pas l'âme spirituelle qui informe le corps, mais cette âme qui informe le corps est spirituelle. Et parce que cette âme qui informe le corps est spirituelle, elle est présente au corps. Et donc c'est une présence spirituelle dans le corps. Et la présence spirituelle dans le corps ne fait pas du corps humain un corps spirituel. Ce serait faux de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire que le corps de l'homme est spirituel. Mais je dois dire que le corps de l'homme est temple du spirituel. Il est le lieu où le spirituel habite. Il habite d'une manière telle que c'est dans l'unité d'être. Et donc il y a quelque chose d'unique là. J'ai aucune analogie qui explique ça. Tandis que le corps de l'animal est... Il a une âme, et une âme qui est une âme animale, c'est-à-dire une âme qui n'est pas spirituelle. Je crois que c'est très important, et c'est là le lieu de tous les équivoques, vous voyez. Le lieu de tous les équivoques, c'est de dire le corps est spirituel à cause de l'âme. Alors, non, c'est un regard mystique faux. Le corps de l'âme n'est pas spirituel, il est organique et c'est un corps biologique. Mais ce corps biologique n'est pas entièrement défini par la biologie. Et donc il y a en lui quelque chose qu'il dépasse. Vous voyez, c'est pour ça que la distinction des réductionnistes et des spiritualistes n'est pas juste. On n'est ni réductionniste, ni spiritualiste, si on est vraiment réaliste. On reconnaît, avec les réductionnistes, que le corps de l'homme n'est pas un corps spirituel. Et on reconnaît, avec les spiritualistes, que le corps de l'homme est le réceptacle, le lieu, le temple. On dit temple parce que c'est justement le temple de l'esprit, avec un petit T, le temple d'une âme spirituelle. Et donc il y a un lien mystérieux avec l'esprit. Vous voyez, on n'est donc ni réductionniste, ni spiritualiste, on est réaliste. Et ceci montre que le corps de l'homme implique le respect, parce que c'est une personne, et que c'est l'élément substantiel d'une personne. Donc le corps de l'homme a quelque chose d'infiniment respectable. Parce qu'il est le corps d'une personne humaine, et donc d'une personne spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que le corps soit spirituel. Le corps spirituel, ce sera le corps glorifié. Alors là, mystère, je ne peux plus rien dire. Un jour, notre corps sera spiritualisé. Il sera spirituel. Passera à travers les portes. Ça ne gênera plus du tout. Plus besoin de médecin à ce moment-là. On dira au médecin, au revoir. Tu m'as bien aidé sur la terre, mais maintenant, je suis libre. Vous voyez ? Et c'est très beau parce que c'est le corps transformé plan du spirituel qui atteindra sa fin sans l'art. Vous voyez, c'est la matière qui atteindra sa fin sans l'art. À cause de l'esprit spirituel, la glorification. Vous voyez comme quoi Aristote sert à dire beaucoup de choses. Il est manifeste. Alors donc, si donc les réalisations accomplies par l'art le sont en vue d'une fin, il est manifeste que le sont aussi les réalités accomplies par la nature. Il est manifeste, hein, c'est très fort, parce qu'il n'hésite pas de le dire, que pour lui, c'est quelque chose d'évident. C'est Oilon, Oti, Kaita, Kata, Tenfusin. Car les étapes ultérieures et les étapes antérieures sont dans le même rapport. Voilà. Voilà l'imitation. Vous voyez bien. Et Aristote le dit. Voilà comment je peux dire que l'art imite la nature, c'est parce que les étapes ultérieures et les étapes antérieures sont dans le même rapport. Homoios, vous voyez, le homoios, semblablement. Alors évidemment, c'est une analogie, si j'étais tout à fait rigoureux, ce serait une analogie métaphorique, homoios. Homoios gar, et qui pros. Allela en toi kata teknen. Kai en toi katofzen. Ta ustera prosta protera. Tout est là. C'est l'ordre qui existe entre les antécédents et les conséquents où il y a homoios, quelque chose de semblable. Et à cause de ces quelque chose de semblable, je dis que l'art imite la nature. C'est très rare qu'Aristote explicite tant. Donc c'est un lieu très important ici. Car les étapes ultérieures et les étapes antérieures sont dans le même rapport, sont semblablement dans le même rapport, c'est un peu trop. Homoios. Est-ce que c'est tout à fait le même rapport ? Le même rapport, ce serait une analogie de proportionnalité. Alors, est-ce une analogie de proportionnalité ? Ça, question de langage. Je crois que c'est une analogie de proportionnalité. Mais, homoios, est-ce que ça veut dire ça exactement dans la perspective d'Aristote ? Sont dans le même rapport. Les unes relativement aux autres, dans les relations accomplies par l'art et dans celles accomplies par la nature. La chose est claire. Ah, soyez intelligent. Donc la chose est claire, c'est bien évident. Surtout touchant les animaux qui sont autres que l'homme, lesquels ne font rien, ni par art, ni par recherche, ni en le voulant. Les pauvres brutes. On est brute quand on ne fait rien par l'art, ni par recherche, ni en le voulant. Vous êtes réduit à l'état de brute. Vous voyez, les petits cochons ne font rien par l'art, par recherche, ni en le voulant. C'est intéressant de voir les trois dépassements. Hein. L'art, la recherche, et puis le point de vue de la volonté. D'où certains soulèvent la difficulté de savoir si les araignées, oui, comme c'est aristotélicien de s'occuper des araignées, si les araignées, les fourmis et les animaux de cette sorte œuvrent par intelligence ou par quelque autre puissance semblable. Bon, est-ce que les araignées, quand elles font leur toile d'araignée, c'est tellement beau, c'est tellement géométrique, c'est extraordinaire comme harmonie. C'est une harmonie parfaite. C'est une maison en toile d'araignée pour arrêter les moustiques. C'est ça, parce que c'est le but de la toile d'araignée. Elle a fait une maison en toile d'araignée. Moi. C'est extraordinaire comme c'est harmonieux. Alors, est-ce que c'est fait par intelligence ou par quelque autre puissance? D'ailleurs, en avançant ainsi de peu, il apparaît que dans les plantes aussi adviennent des choses utiles à la fin qu'elle a leur. Les feuilles, par exemple, en vue de la couverture du fruit. Vous voyez, la finalité, comme quoi, c'est très très délicat. Très délicat, Aristote l'a dit déjà, hein, quand la scolastique va un peu plus loin, ça devient absurde. Vous restez la feuille en vue du fruit. La toile d'araignée. De sorte que si c'est à la fois par nature et en vue de quelque fin que l'hirondelle fait le nid et l'araignée la toile. Et si les plantes produisent les feuilles en vue des fruits, et les racines, non vers le haut, mais vers le bas, en vue de la nourriture. Ça, c'est toutes les parties des animaux. Il est clair que la causalité de cette sorte existe bien dans les réalités qui adviennent et sont selon la nature. Et puisque la nature est double, s'exerçant l'une comme matière, l'autre comme forme physique, celle-ci, en outre, est en fin, et les autres causalités s'exerçant en vue d'une fin. Cette même nature sera la cause qui est ce en vue de quoi s'exercent les autres causalités. Et comme ça, on reviendra là-dessus, parce que ça, c'est plein d'astuces.